lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
Jean-Marie Rouard de l'Académie française publie chez Grasset sous le titre « Cette opposition qui s'appelle la vie », un ouvrage qui surprendra sans doute les lecteurs qui ne le connaissent pas bien, mais qui le voient ou voient sa signature souvent dans la presse et à la télévision, voix et signature d'un écrivain répandu. Issu d'une famille d'artistes, longtemps journaliste au Figaro, auteur de nombreux livres, essais, romans, biographies, il a eu le prix Interallié, académicien français, élu au fauteuil de Georges Duby. Jean-Marie Rouard est, comme on dit, au meilleur sens du mot, une personnalité bien parisienne. Ce livre n'est pas un essai doctrinal lourd de pensées profondes et pas davantage un ouvrage polémique. C'est une sorte de journal de l'année 2008, de mars à décembre. Une démarche variée, un peu désinvolte, un style plaisant qui n'hésite pas devant l'emploi d'expressions familières, voire populaires. Ce journal va d'un sujet d'actualité à l'autre, dans le désordre, comme un journal télévisé. D'un académicien issu du Figaro, bien installé dans ce qu'on appelle l'établissement, on s'attendrait à une vision très classique, voire un brin conventionnel et même mondaine, des gens et des choses. Mais ce serait mal connaître Jean-Marie Rouard. Il n'est certes pas un révolutionnaire ou un gauchiste, il a un tempérament de droite, mais avec une liberté de jugement et parfois une insolence qui montre qu'il est resté dans l'âme un journaliste, pas dupe de son temps et des modes. Ceux qui ont lu d'autres livres de lui savent qu'il est même capable d'avoir sur certains sujets, je pense à la prostitution, au suicide ou à d'autres misères humaines, un regard sensible et même généreux. Il avoue dans sa préface qu'il avait dans l'enfance l'appétit de rencontrer des grands hommes, et ceux de la politique surtout. Il professe une grande curiosité pour la société qui bouge et éprouve, je le cite, une profonde griserie à être le spectateur de ce grand théâtre sans entr'acte ni tombée de rideau qui s'appelle à présent la politique et qui, après nous, devient l'histoire. » Fin de citation. Je dois dire que le regard de Jean-Marie Rouard sur la société est en lui-même un spectacle. Il tire son titre d'une phrase de Balzac, « J'appartiens à ce parti d'opposition qui s'appelle la vie ». Partagé entre une grande considération envers les puissants et une insolence qui traduit une lucidité assez désenchantée sur la nature humaine, il nous fait dans ce livre, entre mille anecdotes et citations, un portrait assez saisissant et, je le rappelle ou je le répète, désenchanté de la société d'aujourd'hui. On voit qu'il est resté un journaliste dans l'âme, et il part de notre cher Mauriac, qui le fut aussi, et dont il dit, il décrit merveilleusement les grandeurs et les ridicules de notre époque, mais il fait mieux, il leur donne un sens spirituel. On ne saurait certes en attendre autant de Jean-Marie Rouard, mais cet amoureux de la littérature a, dans sa fantaisie de démarche, de belles pages sur Peggy, sur le Victor Hugo des Misérables, sur Aimé Césaire, sur le Clésio. Il parle aussi, de manière chaleureuse, de certains de ses confrères de l'Académie. Je pense à Alain Decaux et notamment son livre sur le 2 décembre, dont il dit le plus grand bien et qui me donne envie, je dois dire, de le lire. Il y a aussi une très belle page sur Lévi-Strauss. Il rappelle aussi quelques mots féroces, et je ne peux pas résister au plaisir d'en citer quelques-uns, qui montrent que la méchanceté des écrivains, thème que nous avons déjà traité, est quelque chose qui dure. Et par exemple, il cite ce mot d'Alexandre Dumas sur Flaubert, « C'est un génie qui a abattu une forêt pour faire une boîte d'allumettes. » Ou de Jules Renard à propos de Mallarmé, « Mallarmé est intraduisible même en français. » Edmond Goncourt, qui n'épargne pas José-Marie de Hérédia, « C'est un feu d'artifice sur lequel il a plu. » Tout ça est assez distrayant. Il parle aussi, il cite souvent deux écrivains qui sont manifestement parmi ses préférés, Chateaubriand et Paul Valéry. Et il a, à propos de la doctrine de l'Académie française, qu'il assume d'ailleurs, sur le refus du féminin systématique, il rappelle ce mot de Paul Valéry qui distinguait trois catégories de femmes, les emmerdantes, les emmerdeuses et les emmerderesses. Mais il est fasciné par la politique, et en premier lieu par Nicolas Sarkozy, dont on pense d'ailleurs au début du livre qu'il va occuper tout l'espace. Eh bien non. Il en parle à différentes reprises, et j'y reviendrai, mais il y a par exemple, et je rappelle que ce livre, c'est un journal de l'année 2008, de mars à décembre. Et la présidence française, qui est certainement, et de l'avis général, l'un des actes les plus éclatants de la présidence de Nicolas Sarkozy, il n'en parle guère que dans la conclusion. D'ailleurs, de manière très positive, mais tout ce qui s'est passé en Géorgie, les différents sommets, les initiatives de Nicolas Sarkozy sont assez peu évoquées. Mais on sent qu'il a de la sympathie pour le président et de l'admiration pour ses dons. Et pourtant, il ne manque pas de l'épingler. Je cite cette phrase. Ayant si habilement créé les conditions du succès par ses réformes, il les hypothèque par d'autres erreurs ou carences. Il a une assez jolie phrase à propos de la rencontre entre Poutine et Nicolas Sarkozy, un Premier ministre qui est toujours président et un président qui est Premier ministre. Ou bien, encore... à propos de Madame Carla Bruni-Sarkozy, et parlant du président, il ne peut rien faire comme les autres, soulignant son goût de la provocation. Il déplore, par exemple, que le général Kuch, chef d'état-major de l'armée de terre, après un incident déplorable à Carcassonne, ait été démis de ses fonctions, mais je viens d'apprendre par la presse qu'on va sans doute le nommer gouverneur des Invalides. De même, il est très sévère sur la loi relative à l'audiovisuel, la suppression de la publicité et la nomination par le président de la République des présidents des chaînes. En revanche, et sans s'y attarder trop, il est très positif sur le Premier ministre, M. Fillon. Mais d'autres passent aussi sous ses feux. Ainsi, par exemple, Jacques Chirac, il est très choqué qu'il soit logé par une famille libanaise. Rachida Dati, dont il dit, elle fait penser dans ses méthodes à une caricature de Nicolas Sarkozy. Sur Édouard Balladur, ça je ne peux pas résister au plaisir de citer un passage. Sous des dehors sérieux, une apparence cérémonieuse, c'est un esprit vif, caustique, certes pas blagueur. Il n'est pas du genre à se taper sur les cuisses, mais il n'est ni la pique amusante, ni l'humour. Et cette phrase assez étonnante qui a dû faire frémir
Édouard Balladur, c'est un homme d'État à l'ancienne, comme on dit de la blanquette de veau, c'est-à-dire préparé selon les bonnes vieilles recettes qui ont fait leurs preuves. Mais il a une phrase qui est alors beaucoup plus sérieuse. Si j'osais l'expression, je dirais que Balladur est un passionné de modération, ce qui est très bien vu. Donc vous voyez à travers ces quelques exemples que l'humour, l'ironie, et même le côté critique, n'est jamais sous-tendu par des considérations politiques, par des querelles personnelles, par des jalousies ou des ambitions, comme c'est souvent le cas entre les hommes politiques eux-mêmes. C'est le regard insolent d'un dandy monté en graine, mais qui a gardé de sa vie de journaliste et de sa nature rieuse et ironique, une très grande vivacité. D'autres n'échappent pas à la critique, Xavier Bertrand, Rastignac Rondouillard, Hervé Morin, dont je rappelle qu'il est ministre de la Défense, et dont il dit assez drôlement, Hervé Morin m'a tout l'air d'un drôle de pistolet, pas un gros calibre en tout cas, ce qui pour un ministre de la Défense n'est pas de bon augure. Vous voyez que personne n'y échappe et que dans le style, il y a vraiment une très grande liberté. Jacques Lang en prend pour son grade. C'est d'ailleurs à propos d'un événement qui a scandalisé Jean-Marie Roy et pas que lui, qui est l'exposition de Jeff Koons à Versailles. Et Jacques Lang ressemblait à Versailles, errant solitaire dans les couloirs du château, à un diable qui vient de jouer un bon tour, sorti de son sac à malice. Le vieil adolescent charmeur fait partie des enfants perdus de la Mitterrandie, encore trop jeune comme Fabius pour renoncer à un avenir, mais sentant la naphtaline d'une gloire passée, il a bien du mal à exister. Étrangement, et ce qui montre qu'il n'y a pas de parti politique dans ses choix et dans ses jugements, Ségolène Royal bénéficie d'une espèce de sympathie de Jean-Marie Roy. Il dit qu'elle veut être à la fois, ce qui n'est pas facile, Madonna et Jaurès. C'est un grand écart qui n'est pas sans risque, mais il a une certaine tendresse pour elle, de même que pour Ramayade. Un autre, étrangement, bénéficie de sa part d'une espèce de sympathie ou d'une espèce de bienveillance, c'est le jeune Besancenot, dont il dit que son paradoxe est si inoffensif d'ailleurs, un révolutionnaire si inoffensif qui pousse en avant la révolution avec l'air attendrissant d'un père de famille qui pousse son landau pour la promenade du dimanche. En revanche, et là, je dois dire que j'ai regretté ce passage. Et comme j'essaye d'être objectif, je reproche à Jean-Marie Roy un passage excessif sur Dominique Strauss-Kahn. On peut penser ce qu'on veut de Dominique Strauss-Kahn sur le plan politique, sur le plan de sa personnalité, mais on peut ne pas en parler, mais n'en parler qu'à propos de certaines aventures féminines qu'il aurait eues dans le cadre de ses activités politiques, y compris au Fonds monétaire international, c'est un peu choquant. Mais encore une fois, dans l'ensemble, ses portraits assez distrayants, bien ficelés, souvent drôles, montrent une très grande liberté de jugement par rapport à tant de gens qui sont conditionnés par des convictions ou par des engagements, et dont le jugement peut être faussé par ses arrière-pensées ou ses engagements, nous avons là un exemple de liberté, d'insolence, servi par un réel talent. Mais je voudrais, pour terminer, dire un mot des 10 dernières pages, qui sont une conclusion, et où, sans rien abandonner de sa liberté de jugement, Jean-Marie Roy arrive à son meilleur. Il conclut cette année 2008, par la crise, bien sûr. Il parle de l'élection d'Obama dont il souligne qu'elle a un caractère mondial, même si ça n'intéresse en principe que le corps électoral américain. Mais il dit d'une certaine manière, nous avons tous voté pour Obama. Et il le dit de manière assez forte. Sur la crise, il montre que personne n'a vu venir la tempête. Et que tout cela montre que la tyrannie de l'argent, le capitalisme, dont beaucoup avaient considéré qu'il était l'alpha et l'oméga de la vie économique et sociale, a montré là ses limites. Et là, il revient à Sarkozy, qu'il avait un peu abandonné au profit de ses autres têtes de turc ou personnages sympathiques. Et là encore, il est très libre dans son jugement. Sa capacité à tenir les rênes est reconnue, et notamment par lui. Mais il dit, c'est une énigme pour les Français. Il est compétent, mais certaines de ses initiatives ou lubies sur des sujets, je cite, « non actuels ou marginaux » l'étonnent. Et il revient à un problème qui est un problème général et qu'il aborde avec une certaine gravité, le problème de la confiance. La confiance que l'on peut avoir envers les hommes politiques, envers les dirigeants de toute nature. Il souligne qu'il y a dans notre pays une perte de foi dans les élites, d'une façon générale. Il souligne, et c'est l'esthète qui parle, qu'il y a de la laideur partout, dans les villes et dans leurs abords. Il cite à la fin ce titre de Nathalie Sarraute, L'ère du soupçon. Nathalie Sarraute accusait l'auteur de mener par le bout du nez le lecteur. Et on a l'impression, en lisant Jean-Marie Roy, que c'est l'ensemble des électeurs, c'est-à-dire chacun de nous, qui peut avoir le sentiment d'être mené par le bout du nez, par l'auteur, qu'est le personnel politique, et qu'il y a une espèce de désenchantement qui caractérise notre temps. Et voyez en quoi ce livre, a priori assez désinvolte, superficiel, anecdotique, pose en réalité, ce qui ne m'étonne pas de la part de Jean-Marie Roy, de vrais problèmes de fond. Car il ne fait pas sur le ton doctoral ou dramatique, mais on sent que dans sa sensibilité, il est finalement assez inquiet. Il note par exemple que dans notre sensibilité actuelle, on ressent plus ou moins confusément l'absence du lien filial d'essence monarchique qui caractérise les Français par rapport à leurs dirigeants. Alors, en refermant ce livre, je me suis dit, non pas que Jean-Marie Roy s'était trompé d'époque, on est dans l'époque, on ne choisit pas son époque, mais que la France et le monde, tels qu'ils sont, à part cette figure encore inconnue d'Obama, n'est peut-être pas au niveau qu'on a pu connaître à d'autres époques, et que l'ampleur des problèmes qui se posent à nos sociétés et à la société française en particulier, confrontés au niveau intellectuel et moral de ceux qui ont des responsabilités, est de nature à susciter chez nous une certaine inquiétude, voire une certaine angoisse. Et c'est la leçon que je tire de ce livre, encore une fois, extrêmement agréable à lire, drôle à beaucoup d'égards, jamais cruel, bien qu'il soit sévère, mais qui nous fait réfléchir au-delà des vagues de l'actualité sur les vrais problèmes de notre temps.